cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue à Cultivons notre jardin avec Jackie. Salut Jackie.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Comment vas-tu Jackie?
Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. C'est la fin de l'année maintenant, ça s'approche, mais tout va bien. Le jardin est en ordre pour l'hiver, donc c'est une bonne chose.
Bon, ben aujourd'hui, du coup, comme c'est un petit peu l'hiver quand même, on va parler de tout ce qui tourne un petit peu autour du jardin, que faire l'hiver, tout ça. Hein, t'es d'accord?
Oui, et par exemple, qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que t'as
fait? Pour les petits oiseaux, pour les bestioles, j'ai déjà fait des trucs.
Ah,
donc
super, tu vas nous raconter tout ça.
On pourra en parler.
Bon, un petit rappel quand même, juste en début d'émission, sur les horaires de diffusion. Donc le jeudi 12h30 et le dimanche matin à 9h10. Toutes nos émissions sont réécoutables sur le site internet de la radio 48fm.org dans la rubrique magazine. Donc cultivons notre jardin, vous avez même dans les titres, ça doit vous permettre de trier, de trouver l'info qui vous intéresse, enfin l'émission qui contient l'info qui vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis surtout, faites-nous passer vos réactions, vos messages, vos questions, vos commentaires, vos critiques, tant qu'elles sont constructives, et tout ça par mail à redac@48fm.org, ou alors vous pouvez aussi nous contacter par la page Facebook de la radio 48FM. Voilà.
Alors on va aborder peut-être un thème là un petit peu autour, puisque on est quand même à une période où on a fini au niveau du potager, les semis, etc., même les récoltes, tout ça. Et moi je me disais que ça pouvait être un moment pour parler des petits oiseaux et des bestioles au jardin.
Oui, on peut parler des bestioles puisqu'on n'a pas de fruits et de légumes en ce moment. C'est bien les bestioles aussi. Mais c'est pas pour les manger, hein.
Alors, pour les petits oiseaux, ça va même être pour leur donner à manger.
Oui, allez, les mésanges, j'aime bien les mésanges.
C'est important, mais il n'y a pas que les mésanges, hein, parce que d'autres oiseaux vont venir à la mangeoire. Alors, là, il y a un grand commerce autour de ça. Attention, faites pas quand même n'importe quoi.
Oui.
Les oiseaux, l'hiver, n'ont pas besoin de 50 000 graines différentes.
Ah non, attention.
Moi, je suis très adepte du tournesol bio.
Oui.
Pas de pain, pas de... Les petites graines qui sont vendues souvent, là, maintenant, on a des mélanges de graines, des choses comme ça. C'est approprié peut-être pour quelques oiseaux en cage, mais sûrement pas pour les petits oiseaux qui fréquentent nos jardins l'hiver.
Sachez qui ont besoin de nourriture brute, vraie nourriture brute.
Et en plus, de nourriture riche en graisse, c'est ça.
Pour
en
passer
fait,
l'hiver,
les
petits moineaux.
Ils vont emmagasiner de la graisse pour mieux passer l'hiver, pour avoir moins froid, simplement. Donc, la nourriture essentielle, donc, c'est le tournesol. Si vous avez un peu de graisse végétale, ça peut fonctionner. Si vous voulez voir arriver, par exemple, les mésanges jupés, qui sont ils sont très friands de ça. Donc,
c'est trop beau, la mésange jupée.
Ça peut être sympa. Sachez qu'elle va plutôt venir à la graisse qu'au tournesol.
Qu'est-ce qu'on leur met, un morceau de beurre?
Non, graisse végétale.
Ah, graisse végétale, pardon, un bout de margarine, excuse-moi.
Merci, c'est bien de suivre.
Écoute, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur le beurre.
Voilà, donc...
C'est
important, et je disais pas de pain, parce que pas de sel.
Et non, pas de sel, et pas de produits transformés pour les oiseaux.
Voilà, les oiseaux
ne
savent pas traiter le sel. Et donc, en fait, ça va s'accumuler, et ça peut être... devenir très, très mauvais.
Oui, c'est toxique.
Voilà. Alors, donc, mangeoire, le plus simple, c'est un plateau. Aux quatre coins, un petit bois carré et puis un petit toit par-dessus. Alors, pourquoi ça ? Parce que, on protège de la pluie avec le couvercle. Mais l'oiseau, il aime bien, quand il vient à la mangeoire, surveiller comme il faut tout autour de lui pour ne pas se faire choper.
Oui.
Sachez que l'épervier... Ça arrive très souvent quand on a une mangeoire. L'épervier, il est perché dans un arbre à quelques mètres de là et il va viser sa proie. En même temps,
c'est la nature, ça.
Il faut que tout le monde vive. Cherchez pas non plus à l'empêcher. puisqu'en fait, peut-être vous aurez sauvé peut-être 50 oiseaux dans l'hiver en les ayant nourris. Et ben, si lui, il en prend un ou deux, vous l'aurez peut-être aussi sauvé parce qu'il a mangé aussi. Donc, voilà, pas trop d'anthropomorphisme. C'est quand même la loi de la nature. Là. Laissez faire. C'est pas, ça peut être allant, ça peut être désagréable, mais en même temps, c'est la vie qui est faite comme ça. Il y a des granivores, il y a des insectivores, il y a des prédateurs. Mmh. Mais l'insectivore est aussi un prédateur d'insectes. Hein. Mais c'est la petite mésange, alors c'est mignon.
Et oui, c'est voilà, dur, mais ça, si Jackie. C'est dur ce que tu dis là. Voilà. Mais si en on plus, se met... moi, j'adore les rapaces, alors bon.
Voilà. Donc, on en est là pour les mangeoires. D'accord. Sachez aussi que ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi l'époque pour mettre les nichoirs.
Oui, alors ça raconte un peu.
Voilà, parce que ces petits oiseaux qu'on appelle cavernicoles, hein, comme les mésanges, vont donc faire leur nid exclusivement dans un trou, de façon à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière qui rentre, etc. Donc, c'est une histoire caverne comme ça. Ouais. Donc, je vais disposer les nichoirs, déjà à l'automne, pour qu'ils se favorisent... Pardon. 3-4. Pour qu'ils se familiarisent avec la présence de ce nichoir, qu'ils aillent dedans, qu'ils fassent des reconnaissances. Et au printemps, quand ça va être le moment des accouplements, eh ben, il y aura toujours un mâle qui va essayer d'attirer une femelle vers cet endroit-là.
Donc, on sort le nichoir. Là, on le pose à l'automne.
Oui.
Comme ça, les oiseaux vont le repérer. Et ensuite, ils s'y installeront au printemps, voilà. Si ça leur plaît.
Si ça leur plaît.
On est d'accord.
C'est pour ça qu'il faut en installer plusieurs.
Oui.
On ne met jamais une branche devant.
Mais non, c'est
bien
pas
que... Non, mais c'est pas ça. C'est... devant, je veux dire, juste à côté. Il faut toujours penser aux prédateurs, parce que l'oiseau, lui, il y pensera. Donc, on n'a pas de petite barre devant le trou. Hein, ça se passe quand vous achetez des nichoirs.
Oui, on en voit des comme ça.
Voilà, on en voit des comme ça.
Ça sert
je
à
n'ai
rien.
Jamais vu un oiseau se percher. En fait, un oiseau, quand il va rentrer dans le nichoir, il va rentrer directement par le trou. Par contre, ça pourra servir de prise pour une genette ou pour une fouine pour venir aller chercher les choses dans le nid. Donc, pas de branche.
Le
long d'un tronc, hein, moins il y aura de support pour un prédateur éventuellement, et mieux ce sera. Ça, c'est important à le dire.
Oui.
Plus le nichoir est rustique, mieux ce sera aussi. Ça choquera moins les oiseaux. Oui.
Et si tu le mets le long d'un tronc, tu as quand même le prédateur chat là, qui va passer. Alors, au passage, équipez vos chats de clochettes. Merci.
Voilà.
Parce que comme ça, avec la clochette, l'oiseau va entendre le chat arriver, ça va le prévenir. Et le chat est un prédateur terrible pour les oiseaux en France actuellement, donc c'est important. Mettez des clochettes à vos chats.
Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement faire 3 tours avec un fil de fer barbelé autour du tronc de l'arbre, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ça non plus.
Les chats ?
Oui.
Ah, bonne astuce. Tu entoures ton
tronc. Le tronc avec 3 tours de fil de fer barbelé.
Terminé.
Et
bah
donc,
oui, c'est vrai,
comme il faudra qu'il pose les pattes, il fera demi-tour.
Ok.
Voilà, donc on va donc disposer ces nichoirs. Si, quand même à savoir que pendant l'hiver, dans les nuits les plus froides, vous avez aussi des oiseaux qui vont venir dans le nichoir simplement pour passer la nuit, pour essayer de se blottir et d'avoir moins froid.
Ah,
et là aussi, on peut sauver la vie d'un oiseau qui est un petit peu en difficulté. Alors surtout s'il a la mangeoire à côté, qui peut se retaper comme ça, passer une ou deux nuits. Et c'est fréquent qu'après, il va aller dans les bois ou autre pour passer sa nuit. Mais ça peut aussi le sauver. Mm. Ce qui veut dire aussi qu'au printemps, il faut regarder dans son nichoir, le moins longtemps possible, hein, on met l'échelle, on va regarder dedans qu'il n'y ait pas un oiseau mort, parce que ça aussi, ça peut arriver.
Ah, oui.
Et ce sera... Donc, on vide bien le nichoir. Là aussi, je me répète, parce que je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais sachez que ces petits oiseaux, chaque année, refont leur nid.
Oui.
Donc, je dois avoir un nichoir vide.
Oui, et propre.
Au printemps, il doit être vide. Et propre.
Voilà, un peu de vinaigre blanc pour éventuellement le désinfecter un petit peu, c'est
voilà,
pas mal aussi. Hein.
Voilà, c'est pas mal du tout parce qu'il peut y avoir des poux par exemple, des choses comme ça ou des œufs. Oui, mais c'est on le sait par exemple pour les martinets dans leur nid, il y a des œufs d'une espèce de mouche plate particulière qui suce bien le sang des martinets et qui pendant tout l'hiver restent comme ça dans le nid.
Yeah.
Alors là, on peut pas y aller parce que c'est sous les toits,
ouais.
Mais au moins dans votre nichoir, voilà, on nettoie tout ça comme il faut, de façon à ce que la nichée qui va, si on a le bonheur d'avoir la nichée dedans, que tout se passe bien. Voilà, donc très ça, bien. C'était le côté, en fait, mangeoire, et nichoire.
Alors moi, je voulais juste rajouter une petite chose. Vous allez trouver des tutoriels sur Internet. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Ce sont des choses très simples à réaliser à la maison, voire en famille. Ça peut vous occuper un dimanche d'hiver. Voilà, c'est des choses qui ne reviennent pas chères de toute façon. Voilà, fabriquez-les vous-même.
Et oui, en plus, en famille, moi, j'insisterai aussi là-dessus, parce qu'un des meilleurs moyens pour que les enfants ne soient pas trop sur leur jeu électronique, eh ben, c'est bien de faire des choses avec eux, que ce soit des jeux de société ou que ce soit des choses comme ça. Et je vous garantis que quand vous, sur votre nichoir, vous mettez vous pyrogravez ou autre le prénom de votre enfant et puis qu'il y a des petits dans le nid, eh ben, il est heureux comme un pape.
C'est un super cadeau.
Voilà.
Et oui. Bon.
Alors, on va essayer de parler d'autres bestioles, peut-être.
Oui,
petite
oui,
anecdote.
Oui, tu sais, parce que comme l'an dernier, là.
Dans un nichoir, moi, j'ai un nichoir, pardon, mais je raconte cette anecdote et après, je te repasse la parole. J'ai trouvé dans le nichoir d'un poirier que j'ai au jardin, parce que justement, j'allais vérifier un petit peu comment c'était dedans. Je me souvenais de l'avoir nettoyé après le passage des mésanges et puis l'envol d'une nichée. Et en fait, j'ai été très surpris parce qu'il est à 2 mètres du sol. Et ben, au fond, il y avait un lézard des murailles, le lézard gris.
Oh.
Et alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là ? Ben, déjà, il est pas mal à l'abri, à l'abri des intempéries. Mmh. Il est à l'abri du froid parce que c'est un nichoir rustique. Ça veut dire que c'est en planche très épaisse. Et alors, en regardant bien, j'ai vu qu'à l'intérieur, pour passer l'hiver, il y avait aussi des punaises rouges et noires, c'est ce qu'on appelle les gendarmes. Ouais. Et il y avait une dizaine de punaises comme ça. Et je me suis demandé jusqu'à quel point, si ce n'était pas dit, maintenant j'ai le gîte et j'ai aussi le couvert. Quand j'ai faim, je m'en avale une ou deux.
Il nous a fait rigolo. Un truc, ton lézard, entre l'écureuil et le coucou.
Un peu. Mais bon, opportuniste. Donc, c'est plutôt bien. Dans ce cas-là, je ne me dis pas quelle saloperie qui s'est mis là-dedans. Je me dis, mais c'est super, cette biodiversité et que j'ai un peu favorisé quelque part.
Quelque part. Et puis après tout, il est malin. Il a gagné le droit de rester là, quelque part.
Voilà. Il a tout à fait gagné ça. Il est en vacances, peut-être.
Eh bien, moi, j'en avais une. Ben non, ce n'est pas une anecdote, moi. Mais tu sais, je te l'avais déjà dit l'an dernier, Jackie. Dans la fenêtre de mon salon, j'ai des coccinelles qui naissent. Alors ça, c'est du délire parce que mon salon est en train de devenir une nurserie à coccinelles. J'ai des rouges à pois noirs, rouge-orange à pois noirs. J'ai des noirs à pois rouges. Ça sort de tous les côtés. Ça m'empêche de marcher correctement dans mon salon parce qu'il faut faire attention à ne pas écraser les coccinelles. Je ne peux plus fermer l'écran de mon ordinateur portable parce que régulièrement, il y a des coccinelles dessus. Bon, ce n'est pas grave, on se partage le territoire. Mais elles vont repartir, elles vont ressortir. Je ne sais pas quoi faire de ces coccinelles.
Alors, il faut savoir, là, dans les maisons, comme ça, qui vont rechercher la chaleur, parce que contrairement à ce que tu penses, elles naissent pas là.
Elles sont toutes là pourtant.
Elles naissent toujours en extérieur. Les œufs sont pondus sur des plantes. Mm-hmm. Ensuite, la larve va se nourrir de beaucoup de pucerons. Ensuite, ça va faire ce qu'on appelle une pupe. Une pupe, oui, c'est joli. La pupe, en fait, c'est comme une espèce de chrysalide ronde qui va être sur une plante. Et de là va sortir un bébé coccinelle.
Ah, j'ai vu ça, mais sec.
Oui, mort. Mais non, pas mort. On voit l'enveloppe.
Ouais, mais c'était tout sec.
Eh bien, l'enveloppe, elle est toute sèche. Une fois que là, un petit peu comme on peut voir avec une libellule.
Comme si elle était momifiée, la coccinelle.
Ah ben non, alors là, c'est peut-être qu'elle était morte. Non,
mais
la pupe, c'est à peu près la forme d'une coccinelle. Il y a un petit qui va sortir de là. Ce qui est très rigolo à voir, c'est que c'est blanc jaunâtre.
Ouais.
Aucun point, rien du tout. Oui. Puisqu'en fait, ça va se colorer avec l'air, après avec l'oxygène de l'air. Donc, on est en face comme ça d'une petite bestiole qui vient de naître. Alors, c'est un coléoptère.
Oui.
Ce qui veut dire que ça ne grandit pas.
On n'a pas. Un petit peu parce que quand même, elles sont vraiment toutes toutes petites. Oui. Puis après, elles grossissent un peu.
Non, c'est pas. Non, c'est pas non, les mêmes. Parce que ça, c'est pas possible. Puisqu'en fait, non, je suis désolé.
Parce que je les observe. J'observe oui. L'apparition des points, tout ça, mais... pour expliquer à Jackie.
Mais voilà, la. En fait, l'insecte. En particulier la coccinelle, elle n'a pas de squelette. C'est, son squelette est externe, hein, il est en chitine ou chitine. Et donc, à partir du moment où il est fait, celui-là, il est fait pour une fois. Hein. Pour la coccinelle, la sauterelle, ça va être différent, parce qu'elle, elle a plusieurs stades larvaires. La coccinelle, son stade larvaire, c'est comme je disais, on a d'abord l'œuf, puis
la pupe.
Avant la pupe.
Avant la pupe, il y a.
On a la larve.
La larve. Hein,
la larve, puis la pupe. Et une fois qu'elle est sortie de la pupe, elle ne grossit plus.
Pupe.
C'est pas possible. Donc, justement, parce qu'elle a son enveloppe externe comme ça. Donc, voilà. Alors après.
Ah, moi, j'avais vu une évolution. J'avais imaginé.
Et ben voilà,
j'avais cru comprendre en observant ces petites coccinelles qu'elles naissaient plus petites et oranges sans points et qu'après elles grossissaient et les points apparaissent.
Mais elles peuvent pas grossir.
Perdu.
Alors, non, mais des fois, ça peut être le changement de couleur hein, qui donne une impression comme ça. Mais en fait, structurellement, ça peut pas puisque justement, elle a son enveloppe externe. D'accord.
Tu dois avoir raison, Jackie.
Donc, alors après, pourquoi c'est chez toi comme ça?
Oui.
Eh bien, en fait, parce qu'elles rentrent. Et alors, ce sont des coccinelles qui, en fait, craignent beaucoup le froid. Alors, ces coccinelles, eh bien, moi, je peux te dire que très, 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 très probablement, ce sont des coccinelles asiatiques.
Oh, pourquoi tu dis ça?
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les coccinelles de nos contrées, en fait, vont aller dans une, derrière un volet, dans une cabane de jardin extérieur. Elles ont moins besoin de chaleur pendant l'hiver. Ces Asiatiques ont des habitudes comme ça. Elles ont besoin de chaleur. Et donc, c'est pour ça qu'on en trouve dans les maisons depuis quelque temps. Avant, ça n'existait pas. Et en fait, c'est nous-mêmes qui les avons importés. Parce qu'en fait, au début de la lutte biologique comme ça, on disait aux gens, achetez des larves de coccinelles.
Oui, oui.
Et alors, toujours, ça c'est notre côté consommateur, toujours plus gros, toujours plus fort, il fallait des larves plus grosses.
Et donc, c'était
des larves de coccinelles asiatiques. Alors, on a craint pendant un moment hein, que, encore une fois, quand il y a une niche biologique comme ça, où il y a des coccinelles européennes, on a craint que les coccinelles asiatiques ne viennent les détruire part.
Il y a toujours
le risque. Et non, il y a une cohabitation. Là, il n'y a pas de souci, puisque justement, ils n'ont pas exactement les mêmes besoins, par exemple, l'hiver. Donc, on ne va pas les retrouver ensemble l'hiver. Et on va avoir les coccinelles asiatiques dans les maisons et les coccinelles européennes plutôt à côté. Alors, là, on pourrait juste faire une parenthèse sur la coccinelle, parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles, etc. Moi, j'ai toujours entendu dire aussi « Ah là là, mais celle-là, elle est jeune, elle a que 2 points. Elle a 2 ans. Celle-là, elle a 7 points, elle a 7 ans. Celle-là, elle a 11 points, elle a 11 ans. »
Non, c'est pas moi qui
non,
dis
non,
ça.
Non, mais...
J'en suis plus là.
Je te visais pas, mais autant profiter de cette émission et du sujet pour ratisser un petit peu comme ça autour.
Tout à fait.
Alors, il faut savoir que, en fait, dans l'espèce coccinelle, eh bien, il y a des sous-espèces comme ça où on peut dire qu'il y a la coccinelle à 2 points qui existe.
Mm-hmm.
C'est une espèce en elle-même. Il y a la coccinelle à 7 points. Il y a la coccinelle à 9 points, à 11 points. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des bestioles différentes. Et on ne va pas avoir une copulation d'une 6 points avec une 2 points pour que ça donne des 4 points. Ça n'existe pas non plus.
Ah, ça ne se fait pas. Pas de croisement entre les points. Pas le même nombre de points. Bim, terminé. C'est ça?
Voilà. Avec ma réponse, je précède ta question.
Merci,
Voilà. La plus courante, hein, celle qu'on voit de dessinée partout ou autre, c'est la 7 points qui est rouge et noir comme ça.
Oui.
Voilà. Donc, par contre, au niveau des Asiatiques, on ne peut pas définir par rapport aux points, parce que les points, c'est très, très anachronique. On peut en avoir une trentaine, on peut en avoir deux, un. Enfin, c'est vraiment...
Sur les Asiatiques. Moi, j'ai l'impression qu'elles ont toutes des points, un nombre de points différents. C'est pour ça que tu me dis que c'est sûrement des Asiatiques. En plus, elles se sont mises dans la fenêtre qui est à côté du poêle.
C'est un autre critère. Ouais. Donc voilà. Ça, on pouvait dire ça un petit peu sur les coccinelles. Des petits animaux utiles. Là aussi, quand on fait des hôtels à insectes, par exemple, on peut se dire aussi, mais pourquoi je vais attirer des coccinelles dans mon jardin? Dans l'hôtel à insectes, on va mettre une espèce de boîte en bois comme ça, avec des petites fentes, de la paille dedans, et c'est pas rare que des coccinelles viennent justement passer l'hiver dehors dans cet endroit qui est quand même un petit peu à l'abri comme ça. L'avantage, c'est que quand ces coccinelles au printemps vont commencer à s'envoler, elles sont dans mon jardin.
Bien sûr.
Donc, si elles cherchent à manger, elles vont commencer par mon jardin, comme nous. Hein, on va toujours au plus court. Donc, quand elles vont reproduire, elles vont pondre leurs larves sur mes plantes et donc ils vont manger mes pucerons. Et donc, l'intérêt d'attirer à son jardin la biodiversité pour en fait avoir des prédateurs comme ça ou des pollinisateurs qui soient tout près de mes bases.
Ben c'est bien, ouais. Et il y a une question qui me vient là. Mais
oui.
T'as pas été prévenu, mais on va voir comme ça. Tu sais pourquoi on les appelle les bêtes à bon Dieu, les coccinelles, et pourquoi les gens ils les aiment bien, a priori, ces insectes-là? Mis à part le fait que ce soit un peu rond, un peu mignon.
Mais je sais pas. Bêtes à bon Dieu, des fois, il y a deux coléoptères comme ça. Hein. Il y a un coléoptère qui est très noir, qu'on appelle aussi bête à bon Dieu, qui est la goutte de sang, là. Je sais pas. J'imagine que c'est parce que ça arrive à un moment, les coccinelles, quand ça sort autour de Pâques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça?
Je ne sais pas. Rapport à la religion, effectivement. Voilà, peut-être.
Si un auditeur a une meilleure explication, on est preneur.
Ah oui, avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer vos infos sur pourquoi on dit que la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu. Un peu de musique, tu veux écouter, Jackie?
Eh oui.
Bon, je te propose La Caravane Passe, qui nous chante T'as la touche manouche avec San Severino.
Très, très chouette titre, déjà.
C'est parti.
Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti,
guitar héros,
soulageur de démangeaison guitaristique, astiqueur de manche,
pompeur de rythmique.
On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur,
névrotique,
joyeux jazzeux, on voyage sur le riff.
On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche.
Le clic de la mélodie, de la métronome rythmique. Pendant que t'essaies de bouger, tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et l'appui. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métalleux métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau, le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django.
On rêve de bohème, de route, de romanichem, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche.
Si on voit ta cartouche.
Je me suis réveillé, ma moustache avait poussé.
Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner.
Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche air guitare.
Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent.
On a beau se la jouer comme Papy Django,
mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche. Un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche. T'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche. Un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche. T'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche. Un Django qui file la pêche à la mouche. T'as la touche manouche.
Et nous voici de retour après cette petite pause musicale fort sympathique. Hein, Jackie, t'as aimé ?
J'ai bien aimé.
Bon, tant mieux. Alors, on va passer direct, là, comme ça, à froid, à la question d'auditrice. Dorénavant, on va dire question d'auditrice parce qu'on n'a que des auditrices qui nous posent des questions. Ouais, les auditeurs auraient-ils la science infuse ? Je ne sais pas.
Ou la flemme ?
Oh non, quand même pas. Bon, ben voilà, cette fois, c'est Laura demande. Qui nous demande les goji, tu sais, les baies de goji, là.
Oui.
C'est sympa, ça. Donc, Laura, elle connaît des gens qui ont des pieds de goji qui font des fruits, des baies, et il y en a d'autres, et pourtant le goji se développe bien, qui ne font pas de baies. Alors, d'où ça vient ? Tu sais, toi, Jackie ?
Alors, déjà, les goji, c'est pas du tout originaire d'ici. Hein.
Non.
C'est originaire de Chine.
De l'Himalaya, le goji.
Oui, enfin, justement, en limite, là, entre le Népal et la Chine.
Ouais.
Le nom scientifique, alors je sais bien que tu n'aimes pas trop
Allez,
ça.
Allez, vas-y.
Mais c'est le lithium barbarum.
Ouais, d'accord.
Voilà. Ou lithium chinensis. Alors, chinensis, ça veut dire de Chine, justement.
Tout simplement.
Et donc, il y a un nom commun comme ça qui a été, où on peut le trouver aussi, c'est le lycier.
Ah.
De Chine, donc de lithium chinensis, lycier
de Chine. D'accord. Hein,
voilà. Donc après, il en existe plusieurs variétés dans l'espèce. Donc là aussi, peut-être que je me dis là, ça peut être différent effectivement au niveau de la production de fruits. Hein. Moi, ce que je conseillerais, c'est que quand on connaît un arbuste comme ça qui donne déjà bien des fruits,
oui.
Ne pas hésiter à faire des boutures. Alors là, c'est très...
Non, mais ça fait des rejets, hein, ou des...
Oui, ou ça se marcotte déjà,
voilà, ça marcotte.
Naturellement. Mmh. Mais même une bouture, moi j'ai vu dans un troc-plante comme ça, en fait, on m'avait dit, oh si, mais ça, c'est vraiment très bien. Alors imaginez des petits bouts de 20 cm, les feuilles à moitié desséchées. J'ai quand même mis ça dans mon jardin.
Ouais.
Ça m'a fait des pieds, ah oui, du tonnerre de Dieu. C'est vraiment... Alors...
Tu as des baies, toi ?
Alors, non. Alors, justement.
Alors
voilà, ça, c'est... moi, j'ai un jardin qui a 1100 mètres d'altitude et je pense que ça, c'est pas très évident. C'est pas très évident, pourquoi ? Parce que la floraison, elle s'étale de juin à septembre. Donc, moi, c'est plutôt septembre-octobre que j'ai vu quelques petites fleurs violettes dessus.
Ouais.
Et en fait, normalement, la récolte, c'est d'août à octobre, hein, pour correspondre à peu près. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut un certain climat intéressant, que ce soit suffisamment chaud pour que la plante fleurisse suffisamment tôt pour qu'il y ait le temps que le fruit se développe,
oui.
Si je me fais bien
c'est
comprendre.
Mieux.
Hein. Donc, un bon ensoleillement, voire des fois au pied d'un mur ou autre, hein, qui va faire qu'au printemps, la plante va pouvoir démarrer assez tôt.
Une année comme cette année où on a un été qui traîne, on a vu à l'automne des gogies pleines de baies en Lozère. Parce
oui,
que là,
voilà.
On n'a pas eu de grand froid trop tôt.
Mais non, pas trop tôt. Et en fait, on a surtout eu bien de la chaleur pendant l'été.
Ah, ça, oui.
Et donc, en fait, le cycle de la plante s'est un petit peu accéléré et elle a fleuri suffisamment tôt pour que ça puisse produire des fruits à l'automne.
Mmh.
Hein, bien savoir, ces arbres ou arbustes qu'on importe comme ça, c'est très important aussi de savoir exactement, quand on dit la Chine ou même le Tibet, vu la taille de ces pays-là, de bien prendre des précautions autour de ça pour se dire, normalement, c'est cultivé, je pense, dans des coins qui sont quand même très ensoleillés.
Très ensoleillé, mais quand même en altitude et assez froid. Donc finalement, en Lozère, on est pas mal.
Comme pour tous les fruits, hein, les plantes qui produisent des fruits, même le pommier, si on a un hiver qui est rigoureux, il va produire plus de fruits puisqu'en fait, il a souffert d'un hiver. Donc quand il produit des fruits, c'est parce qu'il va chercher à se reproduire. Et on cherche se reproduire quand on a souffert.
Oui.
Il n'y a qu'à le voir, les humains, c'est pareil.
Et oui.
Plus ils souffrent.
Exactement.
Voilà. Donc, pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut aussi prévoir un sol. Alors là, ça n'aime pas l'acidité. Donc, on peut avoir un sol alcalin. Alcalin, ça veut dire un sol calcaire, hein, en fait, argilo-calcaire, comme ça.
Ouais.
Donc, avec un pH supérieur à 7, ou jusqu'à un sol neutre, un pH de 7, ça fonctionne. Donc, attention, pas trop acide. Par contre, c'est un arbuste qui pousse énormément. Hein, ça peut faire des branches de 2-3 mètres de long. Justement, c'est pour ça que ça va se marcoter après. On n'hésite pas à tailler. Parce que là aussi, si on laisse tout ça pousser, il va prendre toute son énergie, en fait, à pousser. Mm. Si je le taille, je vais, mais comme pour un arbre fruitier, je vais arriver à le faire fructifier plus en le taillant.
Et puis ça va fortifier la base aussi.
En même temps.
Voilà.
Donc, pas hésiter. Et puis, si les conditions ne sont pas optimum chez moi, eh ben, peut-être qu'au lieu d'avoir des fruits au bout de 2 ou 3 ans, je vais les avoir au bout de 5-6 ans. Je sais, on est assez peu patient maintenant pour tout ça.
Mais il faut l'être.
Mais il faut mieux l'être et puis se dire, voilà, au moins je mets dans les bonnes conditions et puis ça viendra. Hein. Je peux vous rappeler comme ça quelque chose d'important. Et parmi les meilleures pommes en France, on avait les Calville. Mm-hmm. Alors les Calville, tout un tas de variétés différentes, mais qui s'appelaient Calville comme ça. Et en fait, maintenant, on ne vous en trouvez plus dans le commerce parce que, tout simplement, ça a été détrôné. Et un Calville, ça va mettre à peu près 15 ans avant de donner un fruit.
Ah, quand même.
Voilà. Alors, quand on sait que le Golden peut donner au bout de 3 ans, eh ben, cherchez l'erreur. On trouve des Golden, on ne trouve plus de Calville. Bon, là aussi, ben, au moins
c'est toujours pareil. Hein.
Mais oui, et au moins pour nos choses à nous, comme ça, soyons un peu patients.
On parle du raisin, là, ou pas?
Voilà.
On
peut parler du raisin.
Parce que Jackie, tout à l'heure, parce que quand on se retrouve avec Jackie, on boit et on mange, normal, quoi. Et donc, on se fait goûter des trucs. Et là, cette fois-ci, Jackie, voilà, en parlant de fruits qui ont disparu, ou presque, grâce à nos amis Cévenol qui sont un petit peu malins, qu'est-ce que tu m'as fait goûter tout à l'heure? Raconte.
Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai ramené du raisin qu'on appelle l'Isabelle d'Amérique. Isabelle d'Amérique, ben comme son nom l'indique, hein, c'est arrivé en France dans les années après 1945, où la vigne a beaucoup souffert de maladies en France. Et en fait, on a importé des vignes américaines qui, elles, ne souffraient pas de maladies. On en a réimplanté un petit peu partout en France. Et puis,
c'était nos vignes.
Voilà, et c'était une vigne très intéressante parce que ça prend par bouture, ça n'a pas de maladie, c'est rustique, etc.
Donc
ça allait bien à tout le monde. Mais au bout d'un moment, on a quand même redéveloppé des porte-greffes sains français sur lesquels on greffait des variétés. Et en fait, on a interdit après ces variétés américaines. Le commerce avant tout, je pense. Hein. Bon, c'est un avis personnel, mais partagé par beaucoup. On a 5 ou 6 cépages interdits comme ça. On les appelle les cépages interdits puisque normalement, il ne devrait plus y en avoir. Sauf qu'en Cévennes, quand quelque chose est rentré, ben, c'est difficile de l'en déloger après.
Ouais.
Et les Cévenols ont gardé.
Ils ont
hors d'idée, dedans, il y a d'autres variétés comme le Clinton. Hein, Clinton, ils disent en Amérique.
Ça rappelle vraiment quelqu'un.
Voilà, ça rappelle quelqu'un. Il y a du Noah, du Jacquet. J'en oublie quelques-uns comme ça. Ils sont 6. Et sachez que Fruits Oubliés essayent de réhabiliter ces raisins pour en refaire du vin. C'est des goûts tout à fait particuliers, hein. C'est ça.
Oui, c'est ça que je voulais dire, parce que moi je suis pas une grande fan de raisins. Donc là, le raisin Isabelle, là c'est un petit raisin noir, hein, qui ressemble peut-être à un petit muscat noir, hein, d'aspect comme ça. Mmh. Et en fait, alors ce raisin, il a une peau un petit peu épaisse. L'intérieur est un peu comme le kaki, un peu, comment on peut dire, un peu visqueux, hein, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais et par contre, il a un goût de fraise des bois, mais quand même, il a un goût exceptionnel, ce raisin, il est hyper bon.
Voilà, donc tout est dit. En plus, ça peut se reproduire par bouture,
voilà.
et donc il n'y a pas besoin de greffe, etc. Donc oui, moi il me semble que c'est des, ben, un peu comme les légumes anciens. Voilà, il y a des variétés anciennes comme ça qui méritent tout à fait d'être reproduites.
Ouais, et redécouvertes et voilà, et à nouveau popularisées.
Voilà.
On espère en tout cas pour ce raisin. Moi j'espère parce que vraiment il est très très bon.
Mais ça a fait l'unanimité à la radio. En
exactement,
tout, cas.
Tout le monde l'a trouvé délicieux. Bon, alors en ce qui concerne les activités, ben là voilà, c'est un petit peu tard dans l'hiver, donc on n'a pas trop d'ateliers à vous proposer. Là, c'est, voilà, profitez-en pour vous reposer, réfléchir à votre prochain jardin, n'est-ce pas, Jackie?
Oui.
Alors non, ça, pas hiberner, mais...
Non, mais réfléchir. Déjà, commencer à trier ses graines, regarder les dates de péremption. Hein, c'est très important pour les graines.
Oui.
De pas hésiter à jeter, hein, simplement, des graines qui sont plus bonnes. Selon les espèces, vous pouvez avoir des temps différents de conservation. Hein, le pané, il ne faut pas dépasser un an, par exemple.
Ah oui, c'est court, le pané.
Oui, alors que les tomates, c'est 5 ans. Le genêt, ça peut être 25 ans. Donc, voilà, y a, à chaque fois, y a des dates. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous hésitez un peu, c'est faire un faux semis.
Oui.
Alors, un faux semis, ça veut dire que ben, vous allez faire comme si... faites-le dans la maison, c'est pas grave. Mais comme si vous alliez semer. Donc, je ne sais pas si c'est des haricots, par exemple, vous avez un doute. Vous mettez une vingtaine de haricots dans une terrine, du terreau, vous les enterrez, vous mettez de l'eau, vous les mettez à bonne température à côté du radiateur. Et puis, s'il n'y a rien qui germe au bout de 15 jours, eh ben, vous savez que vous pouvez jeter vos haricots.
Ouais.
Hein, ça peut être une bonne chose à faire.
Oui, un bon tri dans les graines, bonne idée pour passer l'hiver.
Voilà.
Voilà.
Et puis déjà, à partir du moment où je suis dans les graines, eh ben me dire comment est-ce que je vais faire ma rotation de culture par rapport à l'année dernière, où est-ce que j'avais mis tel ou tel légume. Tiens, ben les tomates, ça fait 2 ou 3 ans que je suis à cet endroit-là. Est-ce que je pourrais pas les changer? On a parlé il y a fort peu des fraisiers, par exemple. Est-ce que je ne me referais pas une planche de fraisier? Encore maintenant, encore tant qu'il fait beau, tant que je ne travaille pas de la terre gelée, je peux aussi continuer à planter. Sachez que pendant l'hiver, il y a une activité au niveau des racines. On ne le voit pas du tout au niveau des feuilles, mais les végétaux, en fait, ont réintégré la sève au niveau des racines et développent leurs racines pendant l'hiver.
Oui.
Donc, on ne le voit pas, mais ça se fait. Donc, voilà, on peut encore planter. Je plante, j'arrose. Toujours, à chaque plantation, j'arrose, voire détremper, même s'il va geler la nuit suivante. Le pire, c'est de laisser de l'air au niveau des racines. Donc, je vais détremper. Et même si ça gèle en surface, mes racines ne seront pas abîmées.
Oui, avant que ça gèle.
Voilà,
dessous.
Ça, c'est des conseils de saison.
Bon, ben voilà, encore quelques petits conseils de Jackie pour passer cet hiver en attendant de pouvoir retourner au jardin. Je crois qu'on va laisser les gens maintenant. Qu'est-ce que t'en dis?
Eh ben, hein, oui, bien, on va les laisser en musique.
On va les laisser en musique. Alors, on était sur La Caravane Passe, donc on continue la série La Caravane Passe. Et cette fois-ci, ils vont nous chanter Baba. Et c'était avec Rachida.
Eh ben alors, allons-y. Et puis, bonne semaine à tous.
À bientôt.
سيدتي وسادتي رشيتا هاي يخدم لكم لا كارافان باس وي سي بارتي
pas mon baba, je partirai pas dans ton combat. Et baba, je ne te donnerai pas l'archouma. Non, baba, je ne te donnerai pas de tracas. Oh baba, j'ai tout essayé pour me défaire de toi et de la lignée. Mais habibi, baba, je sais que t'as trimé pour nous sortir d'en bas. On est loin de cité.
Ourani, ourani jay, nekda batrig li kdabta. Ourani, ourani jay, khatwa mura khatwa. Ourani, ourani jay, nekda batrig li kdabta. Ourani, ourani jay, khatwa mura khatwa.
Oh papa, j'ai tout essayé pour me défaire de toi et de la lignée. Mais habibi, papa, je sais que t'as trimé pour nous sortir d'en bas. On est loin des cités.
Chanson t'a bercé, oh béba, entends-la mais ne l'écoute pas. Mais béba, avant de marcher tu peux danser. Béba, n'hésite pas à déboîter le pas.